Bonjour. Et il n'y a pas de musique aujourd'hui, non?
Oh, si.
Ah, j'entends rien. Salut, caractère, tu vas bien? Comment vous faites?
Caractère.
Non, c'est...
Bonjour.
La folie, Ouais, regarde, monsieur, il peut qu'arriver. Incroyable.
Gna.
Bongo.
Oh,
un bisou.
On est pour ça aussi. Hey, Baxter. Baxter is there. Mais in the place.
Non, il n'y a pas de musique, je m'insurge. Toujours la petite musique de la littérature chez nous.
Absolument.
Oh là là.
Comment qu'il va?
Eh ben, ma foi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien.
Vous avez le seum pré-Noël.
D'accord.
Oh, vous êtes pas Thanksgiving.
Non, là là.
Vous avez, est-ce que vous aurez vu Anthony Clément?
Certainement, il est dans les derniers moments de la préparation de la chronique.
Je crois qu'il doit nous emmener en Corse.
Je crois en Corse, c'est vers des univers aussi tératologiques.
Alors celui-là, je l'ai pas.
Tératologique. Monstre.
Tout ce qui a trait au monstre, c'est tératologique.
La tératologie, ouais. Ça doit être un tératos, monstre, j'imagine, en grec ancien. Vous savez, un petit mot qui fait un peu pédant comme ça. Tératologique.
Une
tête tératologique ce dimanche matin.
Je me suis regardé dans la glace et j'ai dit, oh là, il faut que je mette du oil au felouze. J'ai une tête
tératologique.
C'est terrible.
On est des amoureux du lexique ici, vous savez, on aime ça.
MDM. Tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Et cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres, en italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Non, c'est vrai qu'il ressemble à R2-D2, votre aspirateur, mais en jaune. Bonjour Anthony Clément.
Bonjour Anthony.
Comment qui va lui?
Yves, pas mal de belles lectures.
Oui, des lectures tératologiques.
D'autres bien plus médiocres. Voilà, d'ailleurs, on va parler un peu de médiocrité.
Enfin. On n'a jamais fait de rubrique les livres à ne pas lire. En même temps, c'est d'une violence inouïe.
Et en même temps, c'est juste
faudrait...
le thème du livre dont on va parler. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Parfois, il faudrait peut-être les couper à la racine pour qu'elles ne se passent pas.
Vous voulez parler du dernier livre de Jérôme Ferrari?
Oui, mais c'est le thème un peu de son dernier ouvrage, ouais, qui s'appelle Nord Sentinelle, publié aux éditions Actes Sud.
Jérôme Ferrari, Goncourt 2012.
Goncourt 2012.
C'était, je sais plus.
Bravo Anthony, c'était le serment sur la chute de Rome.
Qui était
de mémoire en scène deux étudiants de philosophie qui quittaient tout pour ouvrir un bar.
Ouais, alors c'était en Corse, et là on est encore en Corse en même temps, c'est un peu chez lui.
Ouais.
Et là on n'est pas dans un bar, on est dans un restaurant.
Oui, on est encore en Corse sans qu'elle soit citée.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que d'ailleurs, juste pour la petite histoire...
C'est vraiment la loi du silence jusqu'au bout.
Ouais, voilà, c'est l'omerta sur... C'est en Corse,
ouais.
C'est évident.
Voilà. Les gens qui sont assis, qui foutent rien.
J'ai pas mémoire de d'avoir lu son nom dans le livre. Et d'ailleurs, Nord Sentinelle, qui donne le titre au roman... Et le titre d'une autre île qui se situe sous l'Inde, en fait. D'accord. Je crois que c'est l'Inde qui la dirige.
Ouais, elle a avec l'île de Beauté.
L'Inde et la Birmanie. Mais en fait, la particularité de cette île, c'est que n'importe quel voyageur qui déboule se fait trucider.
Bon, vous allez mire la Corse.
Dernier en date.
Pour un peu qu'on fasse des mauvaises blagues.
Était un... Oui. Tu
l'as fait ou pas?
Et d'ailleurs, il est question d'un coup de couteau. Ouais, dans le...
Vous savez ce que c'est un demi-corse, hein? C'est un mec qui ne sait ni lire. Voilà. On peut repartir.
Donc Nord Sentinelle, même si on ne prononce pas la Corse dans le livre, ça se passe en Corse, mais Nord Sentinelle, c'est North Sentinelle, c'est donc une île. Et donc voilà, cette particularité, c'est qu'on ne peut pas y aller, à part si on souhaite prendre des tirs de flèches directs.
C'est
pas le but.
Ils ont réussi à la filmer, mais même d'hélicoptère, ils se sont fait un sarbacané dessus.
Bravo, ouais. Le dernier évangéliste en date à avoir tenté est mort sur la plage, ouais. Voilà, avec une flèche. Je vous lis un petit passage. passage, ouais. Juste pour vous parler du titre. Je fais très vite. On raconte encore que, dans l'après-midi du 3 janvier 1855, malgré la vénérable prophétie annonçant la ruine de la ville sainte peu de temps après qu'un infidèle l'aurait impunément souillé de sa présence, le sultan Ahmad ibn Abu Bakr consentit à ce que le capitaine Richard Francis Burton franchît les portes inviolées de sa cité de Harar. Je vais un peu plus loin. Peu importe qu'il fût une brute sanguinaire, un aventurier cupide, un soudard conquérant, un suppliant en larmes ou un homme comme le capitaine Burton, dont la soif de connaissance consumait le cœur dans des proportions si monstrueuses qu'elle en devenait un vice, peu importe qu'il cherchât la guerre ou le repos, la conquête ou la rédemption, le premier qui pose le pied sur le rivage, fût-il animé des intentions les plus pacifiques et les plus louables, fût-il un saint, fût-il le sauveur du monde en personne, il faudrait le tuer. Lui et tous ceux qui l'accompagnent, sans distinction d'âge ou de sexe, les vieillards, les femmes, les hypothétiques enfants, toute la horde angélique des chérubins. En suivant cette simple règle, l'humanité se serait évitée, au prix d'un crime minuscule, une atroce et interminable litanie de massacres, d'épidémies, d'asservissements et de mutilations, ainsi que quelques autres abjections mineures au rang desquelles il faut compter la chanson coloniale, les missions évangéliques et bien évidemment la pratique intensive du tourisme.
C'est un peu radical, mais c'est pas faux.
C'est radical, voilà, c'est clair. Mais personne ne peut contester que si quelque obscur indien caraïbe avait, dans un éclair de lucidité salvatrice, fracassé le crâne de Christophe Colomb au lieu de l'écouter avec une curiosité fatale, débiter ses fadaises en agitant crucifix et breloques, il devrait être tenu pour un héros et le bienfaiteur à jamais ignoré du genre humain.
Juste voilà. C'est le début, ça. Ça plante le décor.
Et très vite après, on part dans...
Et le visiteur.
L'histoire, pour le coup, en Corse. C'est-à-dire qu'à partir d'une bouteille introduite illicitement dans un restaurant parce que...
Tout ça en boîte.
Oui, voilà.
Bouteille de Malibu.
En fait, Alban Genevet, qui est un étudiant qui vient dans l'île de Corse, normalement, de beauté chaque été, ouais. Justement, en profiter, qui a un appart familial ou une maison familiale. Bref, en fait, trouve cette fée, comment dire, volée par un certain gars qu'il connaît depuis son enfance, un restaurateur, qui est de la famille Romani, Alexandre, et donc décide de revenir dans le restaurant en apportant sa propre bouteille de vin, sauf que Alexandre Romani va le prendre mal et va le poignarder. C'est ça l'histoire, un petit peu. Ça part d'un fait divers, mais ça part surtout d'un thème qui est un peu grinçant, qui est nouveau aussi chez Jérôme Ferrari, parce que justement, il y a un humour noir, c'est très drôle, mais c'est très cynique, et c'est assez rare quand même dans l'écriture de Jérôme Ferrari.
Ouais, en Corse,
c'est poussé un peu plus loin, puis c'est en Corse en plus. Et pour lui, il est con celui-là. Et donc, en fait, on sent que la bêtise et que la médiocrité fascinent Jérôme Ferrari, mais comme nous tous, hein. Et d'ailleurs, en off, juste avant que vous ayez pris le micro, pour le coup, vous étiez quand même, malgré tout, en train de vous moquer d'une certaine bêtise.
Je
ne raconterai pas. Mais voilà, c'est vrai que... Et le surtourisme, ces dérives et tout ça, en est une expression directe. Il y a vraiment une thématique, dès le départ, avec cette histoire un peu rapportée du 19e siècle. Je suis désolé pour le téléphone, si un libraire veut bien décrocher...
Vous êtes connecté. C'est insistant. Il y a des gens qui vous veulent, il y a des gens qui veulent ce livre. Ouais. Jérémy Ferrari, Actes Sud, Leur Sentinelle.
Juste pour terminer, c'est une critique du tourisme, du surtourisme, du tourisme de masse exacerbé, ça c'est clair. Mais en même temps, le premier c'est quand même la bêtise et la médiocrité, et ce qui est méchant chez l'auteur, méchant mais à juste titre, c'est pas méchant gratuitement, c'est-à-dire qu'il va remonter une lignée en Corse d'une famille, les Romani, j'espère qu'ils n'existent pas pour le coup. Il y aura Philippe, il y aura son fils Alexandre. Le narrateur est de très très mauvaise foi. Ouais. Il ne fait pas partie de cette famille, mais c'est un ami d'enfance.
Ça me plaît, tout me plaît. Hein,
ouais, non, mais c'est vraiment excellent. Et donc, il va montrer le côté débile, chauvin, où tout leur est dû, et en même temps se vautrer justement dans les codes et dans les conséquences du surtourisme pour rendre cette île de beauté sale, mal maquillée. Donc c'est très très fort, avec un ton, comme je le disais, grinçant, drôle.
Ça va plaire aux, je sais pas, des gens qui ont un établissement, un restaurant, un bar sur la côte ou par chez nous.
Moi qui ai personnellement fait 8 ans de restauration pour payer mes études,
C'est
un milieu dans lequel je souhaitais plus jamais revenir. C'est-à-dire que j'ai eu de très très belles personnes, et puis j'en ai eu d'autres qui étaient vraiment l'exemple de des gens parce qu'ils ont une petite liasse dans la poche, se croient tout permis, quoi. Et ça, c'est infernal.
Je connaissais un patron de resto qui disait, il voyait les touristes arriver, il dit... Il y a de plus en plus de cons chaque année, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. On marque une pause. On se retrouve juste après pour parler de monstres. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
peu sa contrainte, c'est le token de Tokoko Faba musique, Fababa 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 musique.
Volet de nos rendez-vous lettrés, Anthony Clément, librairie caractère Mont-de-Marsan. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres 2.
C'est surtout le travail d'Émile Ferris, qui est un des monstres de la bande dessinée aujourd'hui. Voilà, quelqu'un d'extraordinaire.
Je me permets de vous interrompre dans les prédictions, c'est même pas ça, c'est dans la promotion d'ouvrage qui venait de sortir, dans les plus gros coups que vous ayez réalisés, de nous présenter un bouquin un mois avant sa sortie qui allait faire un carton. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Le premier volet, vous aviez tressé ses louanges, ça fait un carton derrière, et j'imagine que c'est pour ça qu'il y a un 2.
Oui, il faut savoir que le tome 1 a eu le Grand Prix d'Angoulême, pour le coup.
Bim !
Voilà, et là, on l'attendait depuis des années, et c'est le tome 2, ça a le même titre. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Juste pour petit rappel, Émile Ferris, elle est née en 1962, à Chicago. En 2002, elle a 40 ans, juste avant la fête de son anniversaire de ses 40 ans, donc elle était illustratrice, elle dessinait des jouets, elle participait à la production de films d'animation. À 40 ans, elle fait petit anniversaire, petite sauterie, se fait piquer par un moustique, et là elle développe une méningo-encéphalite grave, le syndrome le plus grave du Nil. Elle se réveille 3 semaines plus tard, totalement handicapée. On lui prédit qu'elle ne marchera plus, elle ne peut plus se servir de sa main droite qui tenait le stylo. Les femmes fortes autour d'elle vont décider autrement, et elles aussi, elles vont carrément lui scotcher un stylo à la main, et petit à petit elle va revenir donc au plus haut de son art, et en 6 ans ou 8 ans faire 800 pages de ce qui est, moi ce que j'aime, c'est les monstres. Voilà, vous aviez eu le tome 1, vous avez le tome 2 qui vient de sortir, il y aura un tome 3 et un préquel, et ça rentre dans l'histoire mondiale de la bande dessinée. Comme un Art Spiegelman, d'ailleurs, Art Spiegelman, l'auteur de Maus, voilà, a dit qu'elle était une des plus grandes illustratrices de son temps. C'est construit un peu comme Maus, d'ailleurs. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire de Karen qui se dessine sous les traits d'un loup-garou. Donc, elle est lycanthrope. On suit d'abord...
Lycanthrope.
Exactement, lycanthrope.
Oui.
Donc, on est plutôt dans les années 60-70 à Chicago. Ça, c'est le premier temps de récit. Comme on était dans les années 78-80 à New York, qui était un autre temps de récit chez Maus et Art Spiegelman. Et en même temps, on suit et on revient dans le temps, puisque sa voisine, qui donc a réchappé au camp de la Seconde Guerre mondiale, elle est assassinée. Bref, elle mène l'enquête sous les traits donc d'une jeune fille lycanthrope avec un trench, voilà, avec un petit duffelcoat, je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, je le vois, je l'ai.
Bref, et donc il y a les deux histoires, c'est-à-dire qu'on revient un peu à l'époque nazie, et en même temps on est dans le Chicago dégueulasse des années 60-70, avec les truands, avec les flics véreux, avec la pauvreté, la misère. Mais, et donc on a aussi son enquête, et ensuite on a le drame familial. Dans le tome 1, il y avait sa mère, donc elle est très très proche, son frère, qui dans le tome 2 va se rapprocher peut-être d'un... là je vous laisse le découvrir, mais on est proche de la guerre du Vietnam, donc il risque de se faire appeler. Et puis il y a tout l'art qui est vraiment en filigrane, tout le récit. Alors là je montre à Anthony des images qui sont magnifiques. On est donc avec un stylo 4 couleurs. Non, c'est incroyable. Et donc elle, quand elle a un peu de temps, elle se balade dans les musées.
C'est un stylo 4 couleurs, là.
Ouais, c'est un
stylo. Même qu'on allait chourer chez...
Exactement.
C'est un de vos concurrents. Pas petit.
Et donc, on retrouve, voilà, on retrouve un univers un peu, le trait un peu mal dégrossi à la Crumb. Et en même temps, voilà, la narration, la manière d'enchasser les récits à la Spiegelman, voilà, c'est... extraordinaire, c'est explosif, on n'arrive pas à le lâcher. Moi, j'ai passé des nuits et des nuits avec. C'est
C'est une somme de travail démente.
Voilà, on retrouve l'ambiance que vous aimez bien, des pulps aussi, ouais, des années 80, le mauvais papier, les monstres, c'est extraordinaire.
Ouais, j'ai vu passer un bout de Game of Thrones avec le grand méchant chef fantôme.
Exact, oui, c'est vrai.
Ouais.
Les marcheurs blancs.
Les marcheurs blancs, vous l'avez, vous êtes magnifiques. Mais au moins autant magnifique que ce deuxième volet de Emile Ferris. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Le troisième est sur les rails. Bah, le premier est toujours toujours dans les rayons.
Simple, c'est déjà en rupture.
Ah oh, bah voilà, j'allais faire la promotion.
Okay. Voilà, y a
c'est
eu,
rompu.
Il y a eu des problèmes de tribution. Alors nous, il y a pas de rupture chez nous.
Ouais.
Parce qu'on avait anticipé.
Oui, et on fait rentrer une palette.
Voilà, on en avait commandé des dizaines et des dizaines sur les deux librairies, donc du coup ça va. Mais ouais. En tout cas, le coffret déjà est en rupture, on l'a plus non plus. Mais le tome 1, le tome 2 sont disponibles. Et voilà, là vous avez entre les mains et pour l'hiver qui arrive et le feu de bois qui s'allume. Une des fresques les plus réussies voilà, de la bande dessinée contemporaine.
Imparable. Par ici, la sortie, juste avant de se quitter. La Chalosse et les éditions de la Crypte à Jetmo.
Oui, on aura la chance
de recevoir... faire des phrases sans verbe.
Alors, Crypte, vendredi 22, 19h, sortie de résidence, Monsieur Cabot. Voilà.
On devrait faire une émission en morse. Merci Anthony Clément.
Merci Anthony, merci Radio MDM. Très belle journée.
MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.